Les algorithmes, donc, ils font désormais partie de notre vie quotidienne. Ces outils mathématiques ultra performants permettent de fournir des milliards de calculs à la seconde. Ces machines sont en train de s'immiscer chaque jour un peu plus dans notre intimité. Et avec mes invités, nous allons explorer justement le pouvoir de ces algorithmes pour comprendre ce qu'ils peuvent calculer, comment ils dessinent le monde de demain avec les chiffres, et puis quelles sont les questions éthiques qu'ils soulèvent. Toutes vos questions, justement, vos messages, dès maintenant sur le site de La Tête au Carré et sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, on s'intéresse aux effets des traumatismes et des déséquilibres alimentaires sur nos spermatozoïdes.
Et oui, bonjour Mathieu. Deux études parues la semaine dernière viennent préciser ce qu'on appelle l'épigénétique ou comment nos expériences de vie influencent directement celles de nos enfants et nos petits-enfants via l'ADN. On en parle dans un instant avec notre invité et vos questions sur Twitter.
Voilà donc pour le sommaire de cette Tête au Carré réalisée par Stéphanie Texier et préparée aujourd'hui par Carole Sauvage.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les algorithmes et la révolution Big Data, c'est donc le dossier cet après-midi de l'émission. Mes invités pour en parler, le sociologue Dominique Cardon et l'ingénieur Olivier Grisel. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bienvenue. Dominique Cardon, ces algorithmes sont donc capables de fournir des milliards de données à la seconde avec des machines toujours plus performantes. Est-ce qu'on peut tout calculer aujourd'hui avec un algorithme?
Alors, c'est ce qui se prétend parfois, et avec l'idée d'ailleurs que la nature est en mathématiques et tout serait calculable. Bon, la réalité, c'est sans doute qu'il calcule pas tout à fait tout et qu'il calcule pas toujours très bien. Et puis surtout qu'il y a beaucoup de choses de nous, nos désirs, nos envies, nos volontés, notre imaginaire, qui sont encore très très éloignés de la capacité de les calculer.
Ouais, en tout cas des domaines aussi vastes que la santé, la culture, la finance, mais également l'amour et le sexe. On en parlera avec vous, hein. Tout ça, c'est du domaine de compétences des algorithmes.
Absolument. Tout ce qui est de l'ordre de nos comportements et nos comportements donnant lieu à des traces rentre aujourd'hui dans ces calculateurs.
Ouais. Olivier Grisel, est-ce que ces calculs mathématiques ont le pouvoir d'améliorer notre monde ?
De l'améliorer, ça dépendra de qui les met en œuvre. De changer le monde, oui, c'est déjà le cas actuellement.
Oui.
Mais améliorer, oui, dans le domaine de la science, pour faire le progrès scientifique, c'est sûr que c'est de plus en plus utilisé. Après, c'est surtout aussi utilisé pour améliorer le chiffre d'affaires de certaines
organisations. C'est ça. Oui, ça génère énormément d'argent, on le verra avec vous. Et puis, bien sûr, ils ont aussi leurs limites, ces calculs mathématiques, on verra aussi lesquels ensemble. Et puis, le champ d'action donc de ces calculs avec les auditeurs qui nous rejoignent. Toutes les questions pour en discuter sur le site de La Tête au Carré. Et à la une de la science cet après-midi, la façon dont les traumatismes ou les déséquilibres alimentaires d'un parent peuvent engendrer des effets sur plusieurs générations. Après lui, eh bien, nous sommes dans le domaine de l'épigénétique. Vendredi dernier, deux publications dans la revue Science ont exploré ce mode de transmission encore mal connu. Isabelle Mansu, vous êtes avec nous au téléphone pour en parler. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes neuroépigénéticienne, professeure à l'université, à l'école polytechnique de Zurich. Alors, que nous révèlent ces nouvelles études exactement, Isabelle Mansuy?
Ces deux études confirment un concept qui était un petit peu difficile à être accepté, qui est le concept de l'héritabilité des caractères acquis. C'est-à-dire que les expériences de vie, les facteurs environnementaux auxquels nous sommes exposés peuvent modifier notre physiologie, nos comportements, etc., induire des maladies, et que ceci peut être transmis à travers les générations. C'est un concept qui va un tout petit peu contre la génétique ou qui complémente la génétique, mais ces deux études confirment ce qui avait déjà été observé chez les animaux et chez l'homme, qu'en l'occurrence, une mauvaise nutrition ou un régime alimentaire déséquilibré, là, il y a... Les deux études examinent un régime alimentaire pauvre en protéines et un autre trop riche en graisse, et que ces déséquilibres alimentaires conduisent à des troubles métaboliques qui sont transmis à la génération suivante.
Oui, à la génération suivante, puisqu'en l'occurrence, les deux études n'ont été réalisées que sur une seule génération, c'est ça ?
Oui, voilà. En épigénétique, en héritabilité épigénétique, une chose importante est d'examiner l'influence sur plusieurs générations. Là, cela n'a pas encore été fait. Et c'est important, ce serait important de vérifier si la transmission se fait sur plusieurs générations.
Voilà. Et génération de souris, il faut le préciser aussi.
C'est important. Voilà.
Ouais. Est-ce que ces études permettent d'aller plus loin dans la connaissance des mécanismes qui sont en jeu ?
Oui, c'est l'originalité de ces deux études, c'est qu'elles mettent en évidence le fait que des petits ARN, qui sont des fragments d'ARN de transfert, on savait que ces fragments d'ARN de transfert sont présents dans les spermatozoïdes en grande quantité, mais c'est la première fois qu'on les lie à l'affluence d'un déséquilibre alimentaire et à ses conséquences sur les fonctions métaboliques. Oui. Donc en termes mécanistiques, on ne comprend pas encore ce que font ces fragments d'ARN de transfert, mais en tout cas, on a un début de piste qui indique que c'est là qu'il faudrait regarder pour essayer de comprendre un peu mieux comment ces mécanismes d'expression d'héritabilité d'un déséquilibre alimentaire se produisent.
En 2012, vous aviez montré que des épisodes traumatiques dans la vie d'une maman souris étaient visibles dans le comportement de sa descendance sur plusieurs générations. Comment fait-on pour démontrer ce genre de choses ?
Notre étude avait porté sur des pères, sur les pères et sur les mères. En fait, l'influence, enfin, une expérience traumatique pendant la vie précoce chez la souris, que ce soit des souris mâles ou des souris femelles, conduisent au transfert, à la transmission à travers plusieurs générations.
Ça veut dire qu'une souris est stressée ?
Oui, voilà, c'est comme l'homme. Un traumatisme, en l'occurrence, ça, c'était une séparation maternelle imprévisible, combinée à un stress maternel imprévisible. Donc c'est un traumatisme émotionnel, physiologique, c'est toute une combinaison de facteurs qui provoque des troubles du comportement en particulier, des troubles dépressifs, des comportements antisociaux et des pertes de mémoire chez la progéniture. Et ceci est transmis à travers plusieurs générations, jusqu'à la troisième génération.
Mais comment l'observer exactement, alors, sur ce cas précis du traumatisme transmis de génération en génération, toujours chez la souris, hein, parce que c'est important de préciser les choses. Les souris donc de ces nouvelles générations, elles sont séparées de leurs parents pour qu'on puisse être sûr justement qu'il y a bien transmission de ces caractères.
Oui, pour prouver que en fait c'est par le biais des cellules germinales, des spermatozoïdes. En l'occurrence, on a utilisé plusieurs stratégies. Une est de faire de la fécondation in vitro en quelque sorte. Et la fécondation in vitro, qui exclut complètement les facteurs environnementaux, les facteurs maternels, permettent tout de même la transmission. C'est-à-dire que si on fait une fécondation in vitro avec les spermatozoïdes de mâles qui ont eux-mêmes été traumatisés, et dans la progéniture qui est issue de cette fécondation in vitro, on observe les mêmes profils de dépression, de comportements antisociaux et de retards cognitifs. Ça, c'est une des approches. Une autre approche était d'injecter non pas les spermatozoïdes, mais seulement l'ARN des spermatozoïdes. Parce qu'on avait émis l'hypothèse que l'ARN des spermatozoïdes lui-même, qu'on avait montré comme étant dérégulé par des traumatismes, était peut-être responsable de la transmission. Et en l'occurrence, c'était le cas. Donc quand on injecte seulement l'ARN des spermatozoïdes, on arrive à reproduire chez la progéniture, et également la progéniture de la progéniture, c'est-à-dire sur deux générations, on arrive à reproduire les profils de dépression et de comportements antisociaux.
Pourquoi est-ce que ces recherches sur l'épigénétique sont faites seulement ou précisément, essentiellement sur des souris ? Est-ce qu'il ne serait pas possible de collecter du sang ou du sperme humain ?
Oui, bien sûr, c'est un début ultime de toutes ces recherches, en tout cas des miennes. Ce sont des études chez l'homme. On commence seulement en fait à s'intéresser à des échantillons humains. C'est un tout petit peu plus difficile parce que chez la souris, bon, on peut avoir accès à tous les fluides et tous les organes possibles et imaginables en quantité quasiment illimitée. Chez l'homme, c'est un tout petit peu plus difficile, mais en effet, c'est une voie qui doit être explorée et qui, je pense, est extrêmement prometteuse, que ce soit au niveau du diagnostic ou probablement pour obtenir de nouvelles pistes thérapeutiques.
On parle donc de la transmission d'informations génétiques, épigénétiques, pardon, par le spermatozoïde. Est-ce que du côté des ovocytes, on pourrait également obtenir les mêmes résultats ou pas ?
Oui, bien sûr, parce que les ovocytes ont également un épigénome, et l'épigénome des ovocytes est également influencé par les facteurs environnementaux. Simplement, au niveau expérimental, chez la souris en particulier, c'est extrêmement difficile de travailler avec des ovocytes, parce qu'ils sont en quantité limitée, et puis l'ADN est limité également.
Il y a encore beaucoup de choses à découvrir autour de l'épigénétique, Isabelle Mansuy, hein.
Oui, beaucoup.
Ouais, il y a du travail dans ce nouveau domaine de recherche parce qu'effectivement, la génétique avait pris tout le terrain et puis maintenant, il faut faire avec tout notre environnement au sens très très large, on le comprend, hein, ça passe par le psychisme ou des choses très concrètes comme l'alimentation. Merci beaucoup pour vos précisions, Isabelle Mansuy. À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, eh bien, plus une alimentation, là aussi, c'est une autre étude, est riche en sucre et plus les risques de cancer du sein seraient élevés. C'est le résultat auquel sont arrivés des scientifiques américains après avoir étudié différents groupes, là aussi, de souris soumis à un régime alimentaire plus ou moins riche en sucre. Si ce rapprochement entre le sucre et l'apparition de tumeurs et métastases n'est pas nouveau, cette étude identifie pour la première fois avec précision le mécanisme moléculaire par lequel le saccharose et le fructose favorisent chez les rongeurs la croissance de cancer du sein. Cette hypothèse doit néanmoins être considérée avec précaution, n'ayant pas encore été validée chez l'homme. Les plus petits des caméléons ont des langues les plus rapides. Des scientifiques américains ont calculé que la langue des Rhampholeons spinosus pouvait en effet accélérer de 0 à 96 km/h en 1/100 de seconde. Une puissance record expliquée par la tension préalable des tissus élastiques. Avec une telle vitesse, ce caméléon met seulement 20 millisecondes pour attraper un grillon situé à environ 15 cm. Une performance à découvrir en vidéo sur la page Facebook et le compte Twitter de l'émission. Et puis à retrouver également en image le projet audacieux de l'Agence spatiale européenne qui veut construire un village sur la Lune à l'horizon 2030. Des grandes imprimantes 3D pourront être envoyées à partir de 2020 pour construire les infrastructures, a annoncé l'agence. Afin d'éviter les coûts astronomiques que représenterait le transport de matériaux depuis la Terre, l'agence ambitionne plutôt d'utiliser les ressources lunaires, projet audacieux qui pourrait même servir de tremplin pour de futures missions martiennes. Allez, la puissance des algorithmes dans un instant, c'est le dossier de l'émission. Vos questions, vos messages. Franceinter.fr, bien sûr, comme tous les jours. Scratch a ticket with the leg of a cricket and I got triple Jesus. Cash it in for Siamese twin at the family firing range. Went to bed and woke up inside another man said nobody noticed. Was so excited the senators was flattered. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. Return to the Moon avec Elvie.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Le monde des algorithmes, donc, dans le dossier cet après-midi, ce sont ces calculs mathématiques qui permettent donc de brasser des milliards de données à la seconde qui sont présents aujourd'hui partout dans nos vies, comme on va le découvrir pour nous parler justement du pouvoir de ces outils. Dominique Cardon est avec nous, vous êtes sociologue au laboratoire des usages d'Orange Labs et professeur associé à l'université de Marne-la-Vallée. Et vous publiez « À quoi servent les algorithmes, nos vies à l'heure du... » « À quoi rêvent, pardon, les algorithmes, nos vies à l'heure du Big Data » aux éditions du Seuil dans la collection « La République des idées ». Olivier Grisel, vous êtes ingénieur logiciel à l'INRIA de Saclay au sein du centre de recherche qui est implanté sur le campus de l'école polytechnique et les questions donc arrivent sur le site de l'émission. Dominique Cardon, les algorithmes, ça peut paraître encore un petit peu abstrait pour bon nombre d'entre nous. Pourtant, vous nous le rappelez et on réalise effectivement en vous lisant qu'ils sont au cœur de notre vie au quotidien. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce terme informatique ?
Mais... il y a des données qui sont enregistrées de plus en plus avec le monde numérique. Toutes nos traces sont enregistrées, puis ensuite, il faut les calculer. Alors, les algorithmes, c'est en gros la partie informatique du calcul qui traite ces données. L'explication très souvent donnée qui permet d'entendre ce qu'on entend par algorithme, c'est l'idée de la recette de cuisine. Hein. On a des ingrédients, puis on a des instructions. Il faut suivre ces instructions et de préférence les suivre dans l'ordre parce que si on se trompe, on risque de commettre une erreur importante.
Les ingrédients, c'est quoi? C'est les data, les données?
Alors les ingrédients, c'est les données et puis ensuite on va les passer dans une suite d'instructions qui sont une sorte de modèle. Alors encore, bien que dans les nouveaux algorithmes, il y a de moins en moins de modèles, mais on va en tout cas dans l'idée de l'algorithme, il y a l'idée que c'est une suite de calculs qui sont ordonnés en fonction d'un certain nombre de principes pour donner un résultat. Et alors la question du résultat est évidemment absolument centrale.
C'est quoi? C'est pour éclairer au fond cette masse de données?
C'est que si on a des
pour
données,
donner un sens,
si on a des données et qu'on n'a pas de signification, si vos données de navigation elles servent pas à classer de l'information, à organiser quelque chose, on n'a pas de raison très particulière de les capturer. Ces données. Et donc la question du coup est un peu centrale, c'est pour ça moi que je m'y suis beaucoup intéressé, c'est que il y a des industriels, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques, il y a toute une série de gens qui avec des outils qui sont des outils statistiques en fait, cherchent à produire de la signification à partir de ces calculs.
Ouais. Et il y a un vrai enjeu sociétal aussi.
Alors voilà, moi je crois, voilà, c'est un peu l'ambition un petit peu du petit ouvrage et qui est une certaine manière de faire ce que vous faites ici, c'est-à-dire de faire une sorte de pédagogie des algorithmes pour pas les laisser entièrement aux mains, je le dis en regardant Olivier et Grisel, des informaticiens, parce qu'en fait ils jouent un rôle si décisif dans nos vies, ils sont partout sans qu'on les voit, ils classent notre information, ils guident nos comportements, ils sont dans notre GPS, ils sont à plein d'endroits de notre vie sociale et le risque serait qu'on les prennent tout simplement comme une sorte de facilité pratique et efficace sans chercher à les comprendre. Alors ça ne veut pas dire qu'on va devenir statisticien, mais ça veut dire que comprendre le genre de monde qu'ils dessinent, comprendre le genre de représentation, comprendre quelle est la politique des ingénieurs qui sont derrière ou des entreprises qui sont derrière, c'est aussi savoir mieux les utiliser pour bénéficier de leurs forces, mais aussi savoir critiquer les effets qu'ils peuvent avoir sur nos vies.
Voilà, et les données qui s'intéressent directement justement à nos vies privées. Olivier Grisel, cette question sociétale, parce que vous, effectivement, vous êtes ingénieur, donc vous êtes vraiment dans le cœur de la machine, elle vous intéresse cette question? Elle vous semble essentielle?
Je m'y intéresse à titre personnel. Je pense que plus d'ingénieurs ou de data scientists, les gens qui mettent en œuvre ces algorithmes, devraient se poser la question de quels sont les impacts qu'ils ont à plus ou moins long terme. Et c'est pas forcément évident de savoir un petit peu toutes les conséquences que ça va avoir.
C'est une vraie nébuleuse, quoi, au fond, quand même.
Voilà, c'est des systèmes complexes dans un environnement complexe et on peut pas forcément prédire toutes les conséquences, tous les impacts que ça va avoir. Donc il faut se poser les questions et je pense que c'est des sujets de recherche très intéressants.
Alors Frédéric nous dit par mail, je n'ai pas de smartphone, je ne fais pas d'achat sur Internet. Est-ce que je peux considérer que de cette manière, je ne participe pas au Big Data? Alors est-ce qu'il passe entre les mailles du filet?
Il y a quand même des traces qui sont visibles autrement, même si le smartphone, ça doit être le point d'entrée le plus visible pour Google et ainsi de suite. Par exemple, tout ce qui est comportement d'achat avec une carte bleue, ça laisse
ça
une trace
digitale,
trace numérique qui est exploitable. Il y a aussi tout ce qui est réseau social, on va dire, juste envoyer un email ou recevoir un email. Même si vous n'avez pas un compte, par exemple, chez Google, mais que vous envoyez des emails à des gens qui sont en adresse Gmail, Google sera en mesure d'utiliser les informations que vous avez mises dans ces emails-là.
Ah oui, ce qu'on écrit dans l'email peut être utilisé?
Pour différentes choses, oui. Après, c'est pas forcément mal utilisé, mais ça peut être utilisé, oui.
Dominique Cardon.
C'est-à-dire qu'on peut avoir l'envie, le sentiment ou plein de bonnes raisons de vouloir s'échapper du monde des données. L'air de rien, par plein de gestes, on y est présent. Mmh. Il y a un marché noir des données, il y a des échanges qui se font entre... Alors, il ne faut pas non plus être paranoïaque sur cette question, mais la banque, l'assurance, la carte d'achat, les données de santé, il y a toute une série d'endroits où depuis très longtemps, le transport, le pass Navigo, enfin, il y a toute une série d'endroits où, dans des serveurs, des fichiers sont constitués à partir de notre race. Alors, elles ne sont pas tout le temps complètement individualisées, il ne faut pas penser qu'elles sont croisées et centralisées par une sorte d'opérateur omniscient qui serait en train de tout connecter. Mais dans le marché publicitaire, il y a un marché noir dans lequel on s'échange et on se vend des fichiers de données personnelles. Et il y a un enjeu dont il faut être très conscient quand même sur le risque d'un intercroisement un peu global de toutes ces traces qu'on laisse sans le savoir et sans bien s'en rendre compte et qui vont faire un profilage assez universalisé de nos pratiques et de nos comportements.
Une question d'ailleurs qui mobilise déjà d'ailleurs des citoyens sur la planète, comme en témoigne ce documentaire spécial investigation qui avait été diffusé sur Canal+, Big Data, les nouveaux devins.
Depuis quelques mois aux États-Unis, la colère monte. Devant le Sénat à Washington, en cette belle journée d'octobre 2013, des militants des droits de l'homme scandent leur inquiétude face aux révélations d'espionnage généralisé dont sont victimes les citoyens sur Internet.
Ils nous espionnent, collectent plein de données sur nous. Ils ont développé des algorithmes pour nous contrôler.
Voilà, Dominique Cardon. Ça vous rassure d'une certaine manière que les citoyens aussi aillent dans la rue pour dire voilà, attention, on nous espionne, on défend nos droits et il faut faire attention à ces calculs mathématiques. On est face à des formules quand même là. Hein.
Oui, oui, moi je crois que c'est absolument essentiel.
On manifeste contre des formules mathématiques.
Absolument, c'est essentiel de faire aussi confiance parce qu'on a parfois l'impression quand on a tous ces calculateurs qui nous tombent dessus, on a l'impression que les citoyens seraient sans armes, sans ressources et un petit peu dociles face au pouvoir qui les calcule. En réalité, par plein de gestes, alors c'est une résistance assez mineure et parfois peut-être un peu fragile, mais on a plusieurs comptes mail, on a une adresse mail poubelle, on a des manières de se débrancher, on vide nos cookies, on n'a pas envie d'être tracé. Il y a plein de manières de résister, de jouer, de truquer aussi les calculs. Et puis, il y a des engagements plus nécessaires, sans doute.
Vous voulez dire qu'on peut être plus malin que la machine, au fond?
Alors, on n'est jamais vraiment plus malin que la machine, mais on peut la tromper assez facilement, parce qu'on va sans doute en parler, mais ces calculs ne calculent pas toujours très très bien, et la qualité des données qu'ils enregistrent n'est pas toujours très très bonne et du coup la pertinence de leurs calculs est parfois incertaine. Alors effectivement si nous on triche un petit peu avec les données, si on a des comportements qui leur donnent des faux signaux, du coup les calculs sont moins bons. Peut-être juste un exemple, on parle beaucoup dans les objets connectés, vous savez il y a cet objet qui est très fréquent qui dit on enregistre le sommeil. Alors, il y a plein de techniques qui enregistrent le sommeil. Bon, il y a une belle étude qui montre qu'aujourd'hui ça enregistre très mal le sommeil, en fait on dort une heure de plus que ce qui est enregistré. Donc on a l'impression qu'on est calculé au plus près, que c'est rentré dans nos vies de façon très intime et forte. En réalité, les enregistrements sont pas encore toujours d'une qualité extrême.
Olivier Grisel, vous, alors en tant qu'ingénieur, où vous vous situez d'ailleurs dans ce monde des algorithmes, mais comment vous les utilisez dans votre travail quotidien?
Donc moi, je travaille au sein d'une équipe qui fait de la recherche sur le cerveau humain. Donc dans cette équipe, on a accès à des données de neuroimagerie, d'IRM fonctionnel, et on essaye de mettre en corrélation des stimuli qu'on présente à des sujets. Donc ça peut être par exemple des vidéos, des images, des sons ou des actions qu'on leur demande de faire en réaction à certains stimuli. Et on essaye de croiser ça avec l'activité cérébrale qu'on enregistre dans les scanners et on utilise des modèles prédictifs. Un modèle prédictif, c'est quelque chose qui va, en se basant sur ce qu'il a vu dans le passé, essayer d'anticiper des comportements à venir. Et si on arrive à voir...
Alors ça, on le vit régulièrement quand on va sur des sites, par exemple, et qu'on nous suggère des données particulières.
Donc voilà, ces algorithmes prédictifs, ces modèles prédictifs sont utilisés aussi bien dans la science pour essayer de comprendre comment marche le cerveau humain ou en astronomie pour nettoyer les données, en physique des particules et ainsi de suite. Mais c'est aussi beaucoup utilisé par des entreprises commerciales à but lucratif qui vont les utiliser pour anticiper des comportements soit de leurs utilisateurs.
En fonction de nos goûts, c'est ça
En fonction des... Oui, voilà, en fonction des interactions avec les utilisateurs. Par exemple, un service comme Netflix va enregistrer à chaque fois que chaque utilisateur joue un film jusqu'au bout ou joue les 5 premières minutes d'un film et arrête. Là, on a deux signaux. On a un signal positif, un signal négatif. Ouais. Et en croisant ça sur des millions d'utilisateurs, on peut faire des profils de goût, voir quels films vont bien ensemble, suggérer quel film à quelle personne en fonction de ce qu'elle a regardé dans le passé. Et donc, ça permet d'optimiser l'utilisation de la plateforme. Ça va la rendre plus intéressante ou plus performante ou plus addictive. Mais c'est aussi utilisé dans les moteurs de recherche, pour la publicité en ligne, pour détecter les comportements anormaux, par exemple les fraudeurs, les cartes bleues qui auraient été volées. C'est aussi utilisé pour optimiser la logistique, les flux logistiques, par exemple pour des sociétés de taxi comme Uber, pour savoir où est-ce qu'il faut envoyer ces chauffeurs en avance, en anticipant par exemple une demande de consommation qui va se produire ce soir à minuit dans tel quartier. Ça permet de mieux faire marcher tous ces systèmes-là et de les rendre plus profitables.
Et alors vous, sur le cerveau, parce qu'on connaît la complexité aussi du cerveau avec ses milliards de neurones, est-ce que vous pouvez reproduire avec des calculs le fonctionnement même de notre machine cérébrale ou pas ?
Alors, on reproduit jamais à 100%, on reproduit toujours une fraction. Tous ces algorithmes prédictifs, ils font des erreurs. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir dans quelle mesure ils font mieux que la chance. La chance, c'est prédire au hasard. Et si on est capable de prédire deux fois mieux que la chance, par exemple, on peut avoir un intérêt à le faire ou pas. Parce que ça a quand même un coût de le faire. Donc si on... Il y a toujours un ratio entre le coût et le niveau de qualité de la prédiction et dans certains cas, ça peut être utile.
Dominique Cardon.
Oui, moi, dans ce qui a été dit, la chose qui est importante, à mon sens, c'est de dire que on a l'impression quand on dit prédiction que l'algorithme aurait deviné ce que seraient nos désirs futurs, ou qu'il aurait même anticipé, parfois on dit ça, il aurait anticipé quelque chose que soi-même, on ne se serait même pas dit encore à soi-même, mais comme un désir possible ou potentiel. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il calcule, ce qui a bien été montré là, c'est qu'en fait, il calcule le passé. Il utilise les traces de nos actions passées, et à partir des traces de nos actions passées, comparées à la collection de l'ensemble des traces d'autres personnes qui ont fait le même genre de choses que nous, il va dire, il est possible que dans le futur, vous puissiez faire ce que d'autres ont fait, parce qu'ils ont le même type de pattern de comportement que l'individu en question. Et donc, dans nos représentations, la prédiction s'est orientée vers le futur. C'est une sorte de devin, comme ça, de voyante qui aurait éclairé le futur, alors qu'en fait, ça travaille beaucoup sur la trace de nos comportements passés. Ce qui veut dire qu'en fait, pour bien prédire, il faut trouver des comportements chez des individus qui sont très réguliers. Et c'est parce que nous sommes très réguliers et monotones qu'il est de temps en temps possible de prédire des comportements
Façon assez correcte. C'est une des limites des machines, au fond, justement ? Parce que vous nous brossez là le profil de personnes qui ne bougent pas, qui restent figées dans des comportements assez similaires. Dès lors qu'on sort précisément de ce cadre-là, la machine a du mal à pouvoir prédire les choses.
Elle calcule un peu moins bien, mais là je vais vous dire quelque chose d'un peu décevant, mais typiquement sociologique. C'est dire que notre vie sociale est très régulière. Nous avons des comportements qui sont très réguliers. Nos déplacements sont très réguliers. On achète un petit peu la même chose. Quand on aime tel type de film, on va regarder tel autre type de film. Bon. Et ça, l'algorithme le devine bien. Si tout d'un coup, quelqu'un qui écoute beaucoup Beyoncé se met à écouter John Cage, ça, l'algorithme ne va pas le voir. Parce que tout d'un coup, il y a un espace de goût qui est si différent dans les régularités statistiques habituelles des gens qui aiment la musique, il aura plus de mal à le trouver.
Allez, on se retrouve dans un instant suite de notre dossier avec les questions, les messages des auditeurs. C'est la tête au carré, franceinter.fr pour nous retrouver. Voici M6 Solar, obsolète.
À guerre, les concierges étaient en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville, il n'y avait pas de parc, maître. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'auto. Oh shit, à la télé y'a plus de speaking. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, ces films de 3 pieds 7 que je marque, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes.
ce qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique solaire, l'arbalète qui pique cette zig solité à l'élite. Qui élabore depuis des décennies une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masque et la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventricule s'accompagne de l'oreillette. Comme à mes oreilles, la variette, sa coquine et rime avec top solette. Obsolète est aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec délectation. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses, lisse de la mise. Ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse, allumeuse, se prend pour une starlette. Message que dans les cinémathèques, t'es presque calipette. Des huettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète.
Obsolète. MC Solar, tête au carré sur les algorithmes et le big data avec mes invités, donc le sociologue Dominique Cardon et l'ingénieur Olivier Grisel. C'est intéressant d'ailleurs d'observer l'ingénieur Dominique Cardon, Olivier Grisel, hein, qui même pendant les disques est ultra connecté. Hein, dès qu'on a cessé de discuter ensemble, il était sur son smartphone pour voir ce qui se passait sur Twitter. Hein.
Moi, j'écoute la musique aussi.
Ah oui, mais c'est ça, parce que vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Puisque heureusement, on est à peu près multitâche, vous le confirmez. Notre cerveau peut mener diverses actions dans le même temps.
Je sais pas, pour moi c'est assez dur quand même. Mais...
C'est vrai. Ouais. Les algorithmes, donc. On va continuer un tout petit peu à définir ce que c'est, parce que vous parliez de l'aspect prédictif tout à l'heure, Dominique Cardon. D'ailleurs, j'aimerais qu'on écoute toujours l'extrait de ce documentaire Big Data, les nouveaux devins.
On l'a tous vécu en faisant nos courses en ligne. Je recherche une paire de chaussures sur un site marchand et dans les jours qui suivent, des offres promotionnelles pour le même type de chaussures apparaissent sur mon écran. Tous les sites surveillent nos déplacements grâce à des fichiers cachés qu'on appelle des cookies. Encore plus fort, grâce à ces cookies, des sites que je n'ai jamais consultés me surveille à distance. En voici la preuve. Alors que je me connecte sur une page d'un site d'info, d'autres sites m'observent. Un logiciel spécialisé me permet de les visualiser. À peine connecté, 9 sites espionnent ma navigation. Au bout d'une heure, j'ai visité 17 sites, mais 272 autres m'ont espionné en toute légalité. Leur objectif ? Connaître mes goûts et mes habitudes pour essayer d'anticiper mes désirs. On appelle ça l'analyse prédictive. Une mine d'or pour les devins de la consommation.
Voilà. L'analyse prédictive, c'est une des familles justement algorithmiques, Dominique Cardon, celle qu'on décrivait tout à l'heure. Hein.
Absolument, hein, et ce qui s'est beaucoup développé avec le web, qui a utilisé comme cheval de Troie le cookie, hein, et qui l'utilise effectivement légalement. Il y a une sorte de zone grise, hein, mais l'utilisateur donne le consentement sur un site pour qu'il y dépose un cookie qui va l'aider dans sa navigation. Mais ce cookie, il se rend pas compte, et là le consentement de l'utilisateur est vraiment extorqué, qu'il est aussi en train de capturer des informations de sa navigation sur d'autres sites, pour lequel évidemment l'utilisateur n'a aucune représentation du fait que quand il est en train de naviguer, le cookie que France Inter a déposé sur son site pour le connaître est aussi en train de transférer des informations à plein d'autres. Alors ça, c'est des réseaux de publicitaires, les ad networks, qui se partagent entre eux ces données et qui ensuite les mettent aux enchères aux annonceurs qui vont afficher la publicité en fonction de la trace de vos navigations sur l'ensemble d'Internet. On appelle ça le real-time bidding, c'est des sortes de systèmes d'enchères qui fait que la publicité vous est distribuée, une partie de la publicité sur Internet, de façon automatique, sans même qu'un publicitaire ou un média planeur ait réfléchi à l'idée de mettre cette publicité. Elle vient automatiquement parce qu'elle a été jouée aux enchères en fonction de la trace de vos comportements qui a été gagnée par tel ou tel annonceur.
Donc on permet à ces entreprises, Olivier Grisel, de gagner de l'argent, hein? On le voit bien, là, c'est un exemple très concret.
Oui, oui, c'est une des applications les plus répandues, c'est de personnaliser la publicité pour les utilisateurs. Mmh. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est plus dur à dire. Moi, personnellement, je préfère avoir de la publicité qui me concerne que des choses complètement à côté de la plaque. Mais c'est aussi possible, si on n'est pas d'accord, d'aller sur les sites comme Criteo ou ainsi de suite. Quand on voit une publicité, de cocher en haut à droite ou à gauche, il y a un petit œil et on peut se déconnecter et retirer son profil. Mm-hmm.
Oui, ouais. Parce qu'il faut dire que c'est une entreprise française, une des grandes réussites de l'Internet français, Criteo, hein, qui est à l'origine en partie de ce modèle publicitaire nouveau.
Alexandre, sur franceinter.fr, demande justement si la collecte, voire la distribution des données personnelles à notre insu est légale aujourd'hui. Que dit la législation ?
Ah ben, à notre insu, non. Ce que dit la législation, c'est qu'elle doit obtenir le consentement de l'utilisateur. Le grand problème, c'est évidemment que, vous connaissez le principe, hein, vous avez ces fameuses conditions générales d'utilisation qui vous arrivent quand vous inscrivez sur un site, et puis vous appuyez sur « j'accepte » sans jamais avoir lu ces conditions générales. Si vous les aviez lues, vous aurez vu qu'effectivement, elles sont en train d'obtenir de vous le consentement à donner des informations à toutes ces entreprises.
Dominique qui nous dit ceci, le corps humain ne fonctionne qu'avec des algorithmes, mais il n'y a pas de chef ni de décideur. Le bon algorithme, dit-il, n'est-il pas tout simplement celui qui n'appartient à personne et qui est partagé par tous ? Est-ce que c'est une bonne définition pour vous ?
Alors, sans doute, c'est compliqué parce que là, on aurait une sorte de machinerie divine finalement qui serait implantée quelque part pour nous contrôler. Mais en revanche, l'idée de partager les principes de calcul est très importante. Hein. Moi, je crois que c'est un des enjeux démocratiques et citoyens aujourd'hui. C'est que effectivement, une partie des opérations qui sont faites à partir de nos données sont faites par des opérateurs privés qui ne nous disent pas et qui gardent secret le fonctionnement de leur algorithme. Et que le connaître, le comprendre, pouvoir l'étudier, pouvoir le critiquer, c'est un des enjeux nouveau et qui va devenir très central en fait hein, dans nos sociétés, c'est de comprendre ce qui nous est fait, parce que sinon on a l'affaire Volkswagen qui arrive, c'est-à-dire finalement un algorithme qui prétend faire quelque chose mais qui en fait complètement autre chose et qui nous trompe. Hein. Et le grand enjeu aujourd'hui c'est sans doute le fait que les algorithmes soient loyaux, c'est-à-dire qu'on comprenne ce qu'ils font à partir de nos données, qu'on comprenne le principe et qu'ils ne cherchent pas à faire autre chose. Si un site de recommandation de livres me dit je vous recommande les livres qui ont été lus par les gens qui ont lu les mêmes livres que vous, ça peut me rendre un service très utile. Mais si l'offreur de livres est en train de me recommander des livres qui n'ont pas du tout été lus par les gens qui ont lu les mêmes livres que vous, mais qui ont été parce qu'il a un accord commercial avec un éditeur particulier, ben là l'algorithme n'est pas loyal. Et ça, on ne sait pas le vérifier parce qu'ils sont secrets. Et les rendre moins secrets est une exigence importante.
Olivier Grisel.
Je voudrais juste préciser que ce n'est pas forcément les algorithmes eux-mêmes qui sont secrets, parce qu'en général, c'est des objets mathématiques connus qui sont publiés, et c'est un peu toujours les mêmes qui sont utilisés par les différentes entreprises. Par contre, ce qui est secret, c'est les données qui sont utilisées pour fabriquer les modèles, mais c'est des données personnelles, donc on ne va pas les publier non plus, ce sera encore pire. Par contre, ce qui pourrait être intéressant à améliorer en termes de transparence, c'est quelle est la fonction d'objectif qui est utilisée pour construire le modèle. Et ça, on ne le sait pas toujours. Est-ce que ça sert juste à trier des résultats sur un moteur de recherche ou à faire autre chose. Et ça, par contre, on pourrait améliorer la transparence là-dessus.
Mathieu nous dit, le big data, ce qui pourrait nous protéger du terrorisme, par exemple, via la mise en relation de données qui paraissent anodines seules, mais qui ensemble représentent une possible menace.
Bon, c'est un grand débat, c'est un débat qui a été fort en France à propos de la loi de programmation militaire qui a installé hein, l'idée que les services de l'État peuvent utiliser des algorithmes pour traiter nos données de navigation sur Internet ou nos données téléphoniques. Alors l'enjeu vraiment central, et ce qu'il faut vraiment dire, c'est que calculer sur l'ensemble des communications la forme d'un comportement qui serait le comportement de quelqu'un qu'on pourrait dire terroriste n'est pas possible. Hein, voilà. Et surtout, on va générer ce qu'on appelle des faux positifs ou des faux négatifs, c'est-à-dire des gens qu'on va prendre pour des terroristes mais qui n'en sont pas, ou des gens qui sont effectivement des terroristes mais qui n'ont pas été vus par le modèle calculé, de façon extrêmement nombreuse. On va faire perdre énormément de temps aux services de police à surveiller tous ces gens-là. Et donc, il est probable qu'une investigation et une surveillance beaucoup plus ciblée, dans lequel on connaît déjà des gens dont on peut surveiller l'environnement, est sans doute beaucoup, beaucoup plus efficace que cette surveillance algorithmique supposée.
C'est déjà utilisé, non, aux États-Unis en particulier, pour découvrir des quartiers potentiellement, ou des individus potentiellement dangereux, non?
Ben, on peut essayer de dans un grand ensemble de données, on peut essayer de désigner des populations, des groupes, des zones qui auraient des formes de comportement dont un modèle nous aurait appris que. Alors, c'est utilisé par exemple pour la police, pour orienter les brigades policières dans une ville.
C'est ça.
Mais à partir d'une statistique qui est très classique, et les vieux policiers qui ont l'habitude, si on changeait pas les policiers de quartier tout le temps, on n'aurait pas ce problème. Ouais. C'est qu'en fait, il y a des zones.
Une connaissance de terrain.
Connaissance de terrain montre qu'il y a des endroits où il y a beaucoup plus de risques que dans d'autres endroits.
Pas besoin d'algorithme au fond pour.
Oui, un algorithme peut aider à orienter. Dans ces cas-là, il y a pas de problème particulier.
Olivier Grisel.
Oui, je voulais juste dire que la plupart des algorithmes prédictifs ne marcheront bien que s'ils ont beaucoup d'exemples sur lesquels s'entraîner. Et dans le cas du terrorisme, heureusement, il y a encore très peu d'attentats. En fait, quelques dizaines ou quelques centaines à l'échelle de la planète. C'est très peu. Pour qu'un algorithme marche, il faut des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'exemples. Mmh. Et du coup, il y a un grand risque qu'avec des datasets aussi faibles, on soit incapable de faire des modèles utiles.
On tombe à côté de la plaque.
Et on risque de faire beaucoup de faux positifs, ça c'est dangereux, et de tomber à côté de la plaque.
On a un auditeur, Dominique, qui nous dit ceci. J'essayais de noyer les algorithmes en donnant des dates de naissance différentes sur différents sites, en faisant des fautes d'orthographe à mon nom, mais un ami m'a dit que c'était très dangereux parce que c'est identifié comme un comportement de terroriste. Est-ce vrai?
pas bien sûr que ce soit vrai, mais c'est une tactique qui a eu beaucoup d'échos dans les milieux geeks, hackers, etc. On appelle ça, d'un mot barbare, on appelle ça obfuscation. C'est-à-dire, c'est l'idée que pour finalement, plutôt que de se cacher et d'essayer de sortir du monde de la surveillance, on est dans ce monde-là, mais on produit des fausses données. Alors, il y avait sur Firefox, il y avait une application, un add-on qui permettait d'envoyer à Google des requêtes toutes les 10 secondes. Donc, Google ne pouvait plus vous personnaliser parce que vous envoyez des mots-clés au hasard tout le temps. Alors, effectivement, peut-être qu'une des stratégies, c'est de produire tellement de brouillard autour de notre identité que ceux qui cherchent à l'enregistrer seraient désorientés. Mmh.
Allez, on se retrouve dans un instant. Dernière partie de ce dossier, juste après Clou.
Parti pour un ailleurs dans la même ville que moi. T'abuses. J'ai des hallucinations sur les trottoirs, je te vois. Je t'assure. Pourtant, des cons comme toi, on n'en fait plus pour les grues, pour les buses. Je noie mon chagrin tout bas, car pour éponger ma peine, avec mes potes, tu sais, j'écluse, je suis saoul. Dans des brunes ambrées, où je coule. Il est trop tard pour s'expliquer. Je suis saoule, je suis saoule.
Sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Allez, Big Data, donc les données et les algorithmes, ces calculs, milliards de calculs par seconde, c'est le thème de notre dossier avec mes invités, le sociologue Dominique Cardon, Olivier Grisel, ingénieur, vos messages nombreux sur franceinter.fr. Olivier Grisel, on a le sentiment justement avec les données Big Data de parler d'un monde totalement virtuel, sans réalité physique du tout. Or, au contraire, ces données massives sont stockées dans des serveurs aux dimensions de plus en plus importantes d'ailleurs. Hein. C'est vraiment du concret.
Oui, c'est ça consomme énormément d'énergie. Ce sont typiquement des entreprises de l'échelle des grands réseaux sociaux ou des grands moteurs de recherche ont des dizaines de data centers, de centres de données, qui sont grosso modo des usines c'est qui font la taille de plusieurs terrains de foot et qui ont leur propre alimentation énergétique, des fois une centrale ou un barrage juste pour l'énergie de ces centres. Et c'est gros. Et en plus, c'est pas complètement dématérialisé, parce que ça part vraiment de données qui sont enregistrées dans le monde physique. Hein, la position des téléphones portables, les clips, les choses comme ça, c'est vraiment des gens qui font des actions dans le monde réel. Quoi.
Dominique Cardon, on parlait des mesures de prédiction tout à l'heure. Quelles sont les autres familles? Vous en avez identifié quatre algorithmiques.
Oui, mais j'insiste beaucoup, c'est le fait qu'on a l'impression que le calcul, il produit toujours le même genre de résultat. En fait, le calcul, il calcule des représentations du monde qui sont différentes. Alors, et dans le monde de l'Internet, on peut calculer la popularité. La popularité, c'est tout le monde a cliqué au même endroit et tout le monde se recentre vers les mêmes liens ou vers les mêmes sites ou les mêmes informations. On peut calculer l'autorité. C'est d'une certaine manière et ce que fait l'algorithme de Google, le PageRank, qui classe l'information sur le moteur de recherche, il nous dit ce que je vais vous mettre sur la première page, c'est ce qui a été cité par beaucoup d'autres gens qui ont eux-mêmes été beaucoup cités. C'est pas du tout la même chose que la popularité. Ça veut dire qu'on est très central. Les réseaux sociaux ont amené d'autres mesures, des mesures dans lesquelles c'est la réputation. Combien on a de likes, combien on a de retweets, combien de fois on a été cité par d'autres dans l'espace des multiples conversations des réseaux sociaux. La réputation, c'est pas la même chose que l'autorité, c'est pas la même chose que la popularité. Puis effectivement, il y a la prédiction, ça c'est la quatrième famille dont on a beaucoup parlé là, qui elle nous vient nous prédire juste à nous et à nous seuls ce qui va nous intéresser ou vers où nous conduire.
Natural sur Twitter demande ce que vous pensez de ceux qui militent pour l'open data, donc l'accès libre des données, ce qui a des gros enjeux à terme pour nos libertés individuelles, Olivier Grisel.
Je pense qu'actuellement, les données qui sont mises en open data sont rarement des données qui concernent des individus. C'est soit des données agrégées sur des comportements d'individus, par exemple des recensements de la population, des données comme ça, de l'INSEE ou des choses comme ça, ou des données géographiques, météo ou des horaires de train. Ce sont des données publiques qui ne sont pas individuelles, qui sont rarement des données privées, parce que c'est illégal de transmettre des données privées sans le consentement des personnes.
1995, ce film « L'armée des 12 singes », science-fiction, film réalisé par Terry Gilliam.
Pendant mon séjour à l'asile, ils ont étudié mon cerveau de façon intensive, en nom de la recherche médicale. On m'a interrogé, on m'a radiographié, on m'a examiné de partout. Puis ils ont entré toutes les données me concernant dans un ordinateur, grâce auquel ils ont créé un modèle de mon esprit. Oui, monsieur. Ensuite, grâce à ce modèle, ils ont réussi à générer toutes les idées que j'étais appelé à avoir, disons, dans les 10 ans. Lesquelles idées? Ils ont soumis au calcul de probabilité grâce à un appareil extrêmement performant, de sorte que ils ont pu déterminer tout ce que j'allais faire au cours de cette période. Ce qui explique qu'elle ait su que j'avais utilisé l'armée des 12 singes pour écrire une page de l'histoire du monde bien avant que je le sache moi-même. Elle connaît exactement mes moindres intentions avant même qu'elles me viennent à l'esprit. Qu'est-ce que tu dis de ça?
Il est sérieusement atteint.
Alors, Olivier Grisel, avouez-nous tout. Est-ce que dans votre laboratoire, vous êtes en train précisément de faire la même chose, c'est-à-dire d'être capable de fabriquer des modèles de l'esprit, comme dans cet extrait de l'armée des 12 singes?
À une petite échelle, oui. Ah, quand même, hein. Mais là, dans notre laboratoire, on a accès à des scanners IRM qui pèsent plusieurs tonnes. Ouais. Donc on a des données plus fines sur le fonctionnement du cerveau. Même avec ça, on a beaucoup de mal à faire des modèles qui marchent. Après, les modèles qui sont mis en œuvre par les entreprises commerciales qui font du big data, c'est plutôt des modèles de est-ce que je vais cliquer sur cette pub-là plutôt que cette pub-là, ou je vais écouter tel morceau de musique plutôt que celui-là.
C'est plus pragmatique que
et puis,
simplement.
C'est un taux d'erreur énorme, mais qui est juste au-dessus de la chance, qui fait que c'est rentable de le faire, mais ça ne sera pas capable d'anticiper si on veut devenir compositeur de musique classique dans 5 ans. Quoi.
D'accord, pour l'instant, parce qu'on y arrivera peut-être, mais il faut juste améliorer peut-être les technologies.
Oui, peut-être, peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est que dans les techniques nouvelles, hein, qu'on appelle les techniques d'apprentissage de machine learning, finalement, on fait de moins en moins un modèle de l'esprit. Et par rapport d'ailleurs à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur la différence entre la génétique et l'épigénétique, ouais. En fait, on fait de plus en plus de l'épigénétique. S'il y a beaucoup de données, c'est parce qu'on y ajoute des contextes.
C'est ça.
Parce qu'en fait, le cerveau, on se rend compte que c'est une machine statistique.
Des contextes, et
une
de
machine statistique
du coup, hein.
Qui, du coup, en fonction de chaque contexte, etc., va se transformer. Et du coup, le modèle est une sorte de forme malléable qui est constamment transformée par les interactions qu'on a avec l'environnement, avec les signaux, avec les interactions, avec toute une série de choses qui se déroulent dans notre environnement, qui fait que le modèle est en évolution constante. Et ce qui est vraiment nouveau dans les machines statistiques actuelles, c'est qu'on ne lui apprend pas une règle de programmation absolument ordonnée, hiérarchisée et utilisable à tous les coups. C'est qu'en fait, chaque fois qu'on fait une requête, ben, c'est un modèle différent qui se met en place parce qu'il y a des choses qui sont liées à notre race de contexte qui sont différentes. C'est comme ça qu'aujourd'hui fonctionne, par exemple, le moteur de recherche de Google. Il ne va pas mettre en place la même grille d'analyse parce qu'il connaît votre profil et parce qu'il a appris de vous des choses qui font que le modèle qu'il me réserve n'est pas le même que le modèle qu'il vous réserve.
Et on est aussi là dans les limites de l'intelligence artificielle, Olivier Grisel, très clairement, non ?
Oui, alors l'intelligence artificielle, c'est on va dire, c'est quelque chose de plus général que les modèles prédictifs. Les modèles prédictifs, c'est souvent utilisé comme une brique de base pour essayer de fabriquer des intelligences artificielles.
Oui.
Sachant que l'intelligence artificielle générale, on l'a pas encore fabriquée. C'est on n'a pas d'interface. Les modèles qu'on fait, ils sont souvent spécialisés sur un domaine d'application donné, comme par exemple prédire des pubs ou faire de la vision artificielle ou reconnaître la parole. Mais de plus en plus, on voit qu'on peut les combiner et faire des modèles qu'on appelle multimodaux, qui sont capables, par exemple, de traiter du texte et du son et de reconnaître la langage et de faire la traduction de la parole en temps réel. Et petit à petit, on se rapproche vers des choses qui, autrefois, on appelait de l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se développer à grande échelle actuellement, et notamment, les premières applications qu'on risque de voir dans les années prochaines, les années qui vont venir, c'est les voitures autonomes.
Ouais.
Là, on peut se dire que ça commence à ressembler à de l'intelligence artificielle, même si ça reste sur un domaine assez restreint qui est conduire une voiture. Mais on voit qu'on a des algorithmes qui prennent le contrôle d'objets physiques dans le monde et qui sont capables de planifier un trajet et de s'adapter à leur environnement. Donc on commence à avoir quelque chose qui ressemble à de l'intelligence artificielle.
Christophe sur Twitter demande comment structurer et exploiter ce volume de données. Est-ce que c'est pas ça le véritable enjeu plutôt que la collecte elle-même d'informations ?
Ah oui, il y a un grand enjeu sur la structuration des données, parce que ce qui est dit beaucoup avec les nouveaux modèles des big data, c'est que finalement on n'a plus besoin de structurer les bases de données, qu'elles peuvent être sales en fait, incomplètes, imparfaites, etc., que c'est pas grave, le calcul va résoudre le problème. Alors la réalité pratique de ceux qui les manipulent ces données, ceux qui sont vraiment les travailleurs des données, qui ont un peu les mains dans le cambouis, c'est qu'en fait on a quand même intérêt à bien structurer les données, on a quand même intérêt à trouver du signal dans le bruit, hein. Et en fait, beaucoup de données aujourd'hui, c'est énormément de bruit. Il y a quand même un endroit où il faut trouver la bonne variable, les endroits où il y a plus d'informations qui peut être bien utilisées par le calcul. Et donc, je crois effectivement qu'il faudra un peu structurer plus les bases de données qu'on ne le dit parfois. C'est ce que font les gens qui travaillent dans le monde de la science, hein, notamment.
Ouais. Vous parlez de l'aspect discriminant également, Dominique Cardon, de ces algorithmes. Olivier nous dit, il faut signaler que le but de la récolte des données aussi nous permet d'avoir un profil bien défini, ce qui intéresse beaucoup les assurances type mutuelle, par exemple. Si vous avez des parents prédisposés à une maladie, vous êtes vous-même une personne à risque. Donc, la mutuelle va adapter son tarif à votre profil.
Absolument, absolument. Alors, les nouveaux calculs, un des problèmes éthiques et moraux qui vont nous poser, c'est que souvent, ceux qu'ils ont conçus n'ont pas intégré de règles discriminante. Hein. Google, par exemple, vous savez que dans Google, il y a ce système d'auto-complète. Hein. C'est quand vous commencez à écrire quelque chose, il va vous ajouter quelque chose, vous suggérer des mots possibles. Alors, il arrive que sur certains noms propres, il y ajoute le terme juif. Hein. Et évidemment, Google n'est pas antisémite. Hein. Mais c'est le fait que le calcul algorithmique utilise la fréquence des requêtes faites par les autres qui fait que tout d'un coup, on voit apparaître un résultat antisémite alors qu'il n'a pas été programmé comme tel par l'algorithme. Alors, c'est des effets qui peuvent arriver de façon de plus en plus nombreuses et fréquentes pour nous discriminer, pour effectivement les problèmes de scoring des individus sur leur risque assurance ou maladie vont se calculer à partir des traces numériques qu'ils ont laissées pour tout autre comportement, mais avoir des conséquences qui peuvent être extrêmement problématiques et excluantes ou discriminantes sur les individus.
Pierre nous dit, au moment de la crise financière, on a parlé d'algorithmes fous qui dirigeaient les transactions. Une formule mathématique aussi complexe peut-elle devenir difficilement maîtrisable, voire prendre son autonomie ? Olivier Grisel, les machines folles.
prendre son autonomie toute seule, je pense pas. Par contre, on peut avoir envie de fabriquer des choses qui sont autonomes dans une certaine mesure. Par exemple, une voiture autonome. Après, c'est vrai que quand on utilise de plus en plus d'outils de ce type-là, qui ont une certaine souplesse, qui s'adaptent aux données et qu'on ne connaît pas exactement tout ce qui est dans les données à l'avance, et qu'on fait interagir un certain nombre d'agents, par exemple, pour faire du trading pour la bourse, on ne sait pas ce que les autres opérateurs font sur le marché. Et il peut y avoir des interactions qu'on n'avait pas anticipées et que ça fait des comportements catastrophiques. Bon, je ne connais pas trop la bourse, donc je ne vais pas en dire plus là-dessus.
Dominique Cardon.
Non, juste ce qu'il faut dire, c'est que ça devient aussi en partie des boîtes noires. C'est-à-dire que ceux qui les font ne comprennent plus ce qu'elles font. Et donc, dans les cas boursiers, effectivement, il peut y avoir un emballement complet d'un système. Dont, en fait, comme
il y a eu des mini-cracks, la Bourse de New York, par exemple, dans l'histoire, on en a eu.
Ça dure très peu de temps,
mais ça fait des dégâts.
Les systèmes bouclent sur eux-mêmes, ils tournent dans le vide, ils font des calculs complètement improbables. Et surtout, moi, ce qui m'intrigue, c'est le fait qu'autrefois, quand on faisait des statistiques, on leur donnait un modèle et puis on vérifiait le modèle. Mais aujourd'hui, comme le modèle est une forme d'auto-apprentissage que fait lui-même le système de traitement des données, ceux qui les ont programmées ne comprennent pas exactement l'hydre qu'ils ont créé devant eux et qui calcule dans le vide.
On fait quand même, quand les data scientists qui mettent en œuvre ces algorithmes font toujours de la modélisation statistique traditionnelle et ils font toujours une évaluation où ils divisent le jeu de données sur lequel ils vont entraîner leur modèle en deux sous-parties, une partie pour l'apprentissage et une partie pour l'évaluation. Donc ils utilisent toujours la même méthodologie quand même. Ça n'a pas changé. Par contre, c'est vrai que les modèles sont plus riches, plus souples et plus flexibles, donc ils sont capables de capturer des nuances de gros jeux de données qui n'étaient pas possibles avec des modèles traditionnels autrefois, mais... Le principe méthodologique reste quand même très similaire.
À quoi rêvent les algorithmes? Eh bien, vous le saurez en lisant cet ouvrage de Dominique Cardon, publié au Seuil dans la collection La République des idées, Nos vies à l'heure des big data. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à tous pour vos questions nombreuses.